てんだけど。
Je suis désolée, mais je crois que ça y est, nous allons commencer. Si vous n'êtes pas intéressé par les réfugiants migrants ou les déplacements des populations, vous êtes dans le mauvais groupe, mais vous êtes tout le monde bienvenu. Je m'appelle Laurie Garrett et je m'occupe des relations étrangères à New York et je vous souhaite la bienvenue ici ce soir. Depuis plus de 20 ans, nous avons en matière de VIH, SIDA, et bien sûr dans un sens très large, et en particulier dans les nouvelles maladies, nous posons la question de savoir comment les réfugiés contribuent au risque de transmission du VIH dans les populations données. Il y a une affirmation qui a été émise que la guerre est également un facteur de risque et que le fait d'être déplacé intérieurement est un facteur de risque et le statut de réfugié est un risque que les populations migrantes font face. Donc il y a beaucoup de données qui soutiennent ces faits, mais évidemment, les données ne sont pas vraiment là. Il n'y a pas vraiment eu d'études faites. Nous avons essayé d'examiner ce que les données soutiennent et nous avons produit ce rapport pour le Conseil de sécurité des Nations Unies où les liens et document qui est d'ailleurs disponible sur le site Internet. Mais nous devrions avoir des données, des informations qui nous donneraient un guide. Et aujourd'hui, nous allons entendre les preuves dans la session. Ce sont plus que des anecdotes. Et j'aimerais que les panélistes se rappellent. Nous avons une audience large, donc les acronymes utilisés, tels que IDP, ne signifient absolument rien pour certaines personnes. Donc, vous devriez donner des détails. J'aimerais également que vous éteigniez vos téléphones portables. Et avant de commencer, je ne veux pas non plus dire que les anecdotes ne sont pas importantes. Elles établissent une base qui nous permettent de suivre, de commencer l'analyse. Et le plus important dans nos histoires, on pourrait s'imaginer que Noé Soussi-Sabin, par exemple, qui travaille pour l'ONG Arrêter le SIDA à Kabora. Est-ce que j'ai bien prononcé? Noé est né au Burundi, mais en 86, s'est exilé en Tanzanie. En 2001, il a appris sa séropositivité. Noah. Je vais essayer de parler en anglais, mais vous allez m'excuser parce que, bien sûr, ma langue maternelle, c'est le français. Comme elle a dit, je suis burundien et j'ai j'ai eu le statut de réfugié jusqu'en 1996 en Tanzanie. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai une expérience de la guerre, des déplacements, de vie dans les camps et également dans ma vie, le VIH. Et je suis également séropositif. Ce que je dois vous dire, c'est que la situation, les situations de guerre, de conflit, de déplacement et le statut de réfugié, la vie dans les camps et la vie, c'est une vie, c'est entraîne des problèmes de vulnérabilité, en particulier en matière de contamination du VIH. Dans les conflits, il y a des pratiques qui exposent les populations à la contamination et lors des déplacements dans les régions en guerre, il y a également une distance de contamination et la vie dans les camps est une vie de pauvreté et également une vie dans laquelle nous n'avons accès à aucune commodité sociale, économique, et donc il est facile de comprendre la situation. Après le rapatriement, le problème est identique, pas forcément dans le pays d'origine, parce que nous avons dû passer beaucoup de temps ailleurs. La situation principale, c'est que les réfugiés sont dans une situation intermédiaire. Vous n'êtes pas considéré par votre pays d'origine et non plus par le pays hôte. Et dans cette situation, les ONG qui s'occupent du problème hésitent, en particulier dans les situations d'urgence, et donc vous pouvez évaluer la situation. Donc mon organisation est une organisation communautaire qui essaie de voir comment la communauté fait face à ces problèmes. Et nous avons nous essayons de sensibiliser les personnes à la situation des réfugiés dans les camps. Et maintenant, mon pays, le Burundi, est parce que mon pays est dans une situation dans une position difficile et nous essayons de connecter les réfugiés avec les opportunités qui existent dans mon pays. Ce que je recommande ici de façon concrète, parce que j'aimerais donner l'occasion, c'est que il est bon d'encourager des initiatives régionales qui peuvent considérer les réfugiés et qui peuvent aider à planifier des politiques régionales et bien sûr pour les pays hôtes. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est ce que nous essayons de faire avec Stop Sida. Bon, je n'ai pas à dire beaucoup de choses, je peux m'arrêter ici et j'espère que les spécialistes en parleront plus. Merci. Pour des raisons logistiques, nous allons faire un petit changement que Paul Farmer va commencer d'abord. Il doit nous quitter d'abord. Donc, nous allons commencer avec Dr. Paul Spiegel. Il travaille avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour le contrôle des maladies. Il est sur la faculté, c'est un épidémiologiste, il fait des recherches sur les liens empiriques entre les risques du VIH, les conflits et les réfugiés. Merci de me recevoir ici et encore merci beaucoup à Noé qui et avec qui nous avons passé ces dernières semaines et qui nous inspire énormément. J'aimerais, donc voici mon plan. Je dois faire attention je ne vais pas tout lire évidemment, donc j'aimerais d'abord commencer par mentionner la définition le complexe d'urgence. La définition primaire est le centre de contrôle des maladies. Vous pouvez lire ces définitions. Donc le point essentiel, c'est ce que l'évaluation que fait le CDC afin d'évaluer le taux de mortalité. Il y a beaucoup d'exemples également, tels que le Liban maintenant, où le taux de mortalité est très élevé. Et il y a évidemment des problèmes humanitaires importants. Les réfugiés, les personnes déplacées à l'interne. La grande différence, c'est que il y a une convention de 1951 qui clarifie les droits des réfugiés. Donc les personnes internes ne doivent pas traverser la frontière et donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces populations et de leur fournir des services. Donc je vais très certainement utiliser l'acronyme DP et IDP. C'est ce dont nous parlons ici, les conflits, les régions affectées par les conflits, les réfugiés qui traversent la frontière. Les réfugiés qui traversent la frontière. Donc, il y a des interactions avec les communautés internes. Nous avons les personnes également déplacées qui interagissent avec les communautés hôtes. Il y a énormément de populations, pas uniquement les réfugiés. Ici quelques chiffres. Donc, les réfugiés, il y en a à peu près 13,4 millions. Le nombre s'est réduit, ce qui est très bien. Donc, grâce au rapatriement en Angola, en Afghanistan, au Soudan également. Nous avons 9,2 millions grâce au Haut Commissariat et 4,2 de réfugiés palestiniens. Les IDP, on a une estimation approximative de 25 millions. 50% de ces personnes sont âgées de moins de 18 ans. Nous parlons également, nous essayons de parler de personnes qui sont affectées par les conflits, mais qui ne sont pas déplacées, et ce qui est très difficile à évaluer. Je ne vais pas parler des catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les inondations qui entraînent un nombre important de déplacés. Je vais également... Donc, nous parlons des protagonistes principaux. Il y a un groupe pour nous qui n'est pas nouveau et qui devient de plus en plus important, ce sont les militaires, parce que nous savons que l'aide humanitaire devrait être neutre, en particulier en Irak et Afghanistan. Nous avons des militaires qui travaillent sur la logistique, mais qui fournissent des services à la population, et ceci peut entraîner beaucoup de confusion et pour les NGO qui essaient de respecter leur neutralité. Donc on va parler de l'épidémiologie ici, ce qui est le point principal de mes recherches. Ce que j'aimerais montrer ici, c'est vous avez dans la couleur marron les pays qui sont en guerre depuis très très longtemps, où il y a énormément de personnes tuées. Et ici, le contraire, nous parlons de VIH prévalence, ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire que la guerre est un facteur de protection. Mais il semblerait qu'il y ait un lien. Nous avons analysé ici le point d'origine des réfugiés et leur point de destination. En Afrique et en Asie, ils viennent d'une prévalence plus basse, pour arriver à une prévalence plus élevée, ce qui ne veut pas dire qu'en Afrique, donc c'est tout de même une bonne nouvelle parce que nous n'avons pas à aborder le VIH parmi les réfugiés. Toutefois, je vais sauter cette partie. Nous avons à peu près 10 pays dans lesquels nous avons une prévalence du VIH parmi les réfugiés et la population environnante. Et ceci, c'est pour vous montrer la différence entre les réfugiés et la population environnante. Parfois, c'est identique, parfois plus élevé. Maintenant, nous allons donc la plupart des documents se concentrent sur les risques. Donc ce qui nous intéresse, c'est le lieu d'origine et le lieu de destination, le lieu d'interaction entre les personnes déplacées et la population environnante. Et très peu de personnes se sont concentrées sur ce qui se passe dans les conflits. Quand il n'y a pas de mobilité, il y a très peu de camionneurs qui rentrent dans les pays, beaucoup moins d'organisations. Les relations avec les professionnels du sexe et le retour de ces personnes dans leur pays d'origine. Il faut se concentrer sur ces points et parler de chaque cas personnellement. Je veux également parler de ces trois documents qui sont très importants pour les personnes en déplacement. Le projet Sphère, qui est une tentative, qui est une charte humanitaire dans laquelle il y a des indicateurs, des facteurs en matière de nutrition et responsabilité et qui est très, très important. Le deuxième, c'est le système d'intervention, le directive des systèmes d'intervention qui nous dit quoi faire dans certains secteurs. Et ce sont les réactions auxquelles on s'attend à recevoir. Et finalement, pour cette section d'urgence, nous avons rassemblé trois leçons qui ont été apprises et je vais en parler très vite. Donc le premier, c'est l'intégration dans les pays hôtes qui forment, qui éduquent sur des plans. C'est pour montrer ce qui s'est passé en Afrique. En 2004, il y avait nous avons examiné 23 plans. 15, il y avait des groupes vulnérables tels que les professionnels du sexe, les personnes qui consomment de la drogue, et seulement 43% ont fourni des activités pour les réfugiés avec un plan stratégique. Si nous voulons nous occuper de cette épidémie, il va falloir considérer les réfugiés comme faisant partie des populations ainsi que les réfugiés déplacés à l'interne. Nous avons également fait des stratégies similaires qui montrent un manque d'inclusion des réfugiés et les autres ONG devraient développer des programmes parallèles. Nous voulons donc intégrer les programmes qui examinent l'interaction entre les réfugiés et les communautés. C'est quelque chose qui vient du CDC. Donc le HCR en tant que protection la protection est un problème très très important. Il y a plusieurs violations des droits des réfugiés quand ils passent la frontière. Malheureusement, ici, il y a 6 pays dans le monde, y compris le Canada, qui dépistent les réfugiés. Et beaucoup d'entre eux leur permettent de rentrer dans le pays après un dépistage obligatoire et un écart de 6 mois entre le dépistage et leur arrivée au Canada ou aux États-Unis. Donc, Et bien sûr, les antirétroviraux ne sont pas fournis et la confidentialité n'existe pas. Malheureusement, l'Australie refuse les séropositifs. La dernière approche, c'est une approche sous-régionale mentionnée par Noé. Nous avons commencé par travailler avec chaque pays et avons réalisé que ce n'était pas possible parce que l'expérience de Noé nous montre que les réfugiés sont tout le temps en train de bouger. Et bien sûr, en tant que des personnes déplacées, les camionneurs, nous devons penser au-delà de la frontière. Il y a des exemples variés qui s'appelle l'initiative des grands lacs, dans lesquels 6 pays, bien qu'il y en ait 2 qui soient en guerre, le Rwanda et le pays à l'époque, nous avons pu travailler avec les gouvernements pour essayer de développer un programme pour les réfugiés et les communautés environnantes et ce qui se passe lors du rapatriement et les services qui seront fournis et comment garantir ces réfugiés comment leur assurer qu'ils reçoivent les services offerts. Et comme nous l'avons vu, les réfugiés sont souvent des charges et qui ont énormément de compétences. Et il nous faut travailler avec eux et nous assurer que quand ils retournent chez eux, ils sont reconnus en tant que tels.
We're going to take all the questions at
me. Alors, nous prendrons les questions à la fin. Peut-être vous voulez mettre sur un bout de papier les questions que vous voulez poser pour la fin. Il y a aussi des affiches dans la séance des affiches maintenant. Une des affiches faites par Paul sur l'incidence du VIH parmi plusieurs populations déplacées. Dans la catégorie PEO5... et au 501 dans la séance des affiches. Prochaine invitée, Dr. Lina Tsu, professeure à l'Université de Medial à Bangkok. Elle travaille avec des populations déplacées et des réfugiés dans bien des régions du monde, comme le Timor de l'Est, l'Indonésie. Elle a travaillé avec l'UNDP. Elle a mené la task, le groupe de travail sur le tuberculose VIH aux Nations Unies. Bon après-midi. C'est un honneur pour moi d'être ici et de partager avec vous certaines réflexions basées sur une décennie de travail autour du monde. Comme on l'a dit, les réfugiés identifiables. Eh bien, mon rôle, c'est pour amplifier, en fait, de souligner les personnes qui sont invisibles. Veuillez éteindre la musique, s'il vous plaît. Alors, le défi que représente le calcul des personnes invisibles et comment on les définit, ce ne sont pas des réfugiés qui sont définis. Ce sont tous les non-réfugiés qui sont déplacés quand même, y compris certains d'entre nous ici même dans cette salle. Alors, quels sont les chiffres? Je n'ai pas la réponse. Mais exactement, comment peut-on calculer et prendre en compte les liens, en fait, pour le transport maritime, aérien et terrestre? Par exemple, en Chine, plus de 10 millions de dollars de personnes au sein du pays sont en transition, sont en déplacement. Ça n'inclut pas les gens qui sortent du pays aux frontières et qui reviennent le soir. Alors, qui devons-nous calculer dans ces chiffres-là? Parce qu'il y a tellement une grande variété de gens. Mais d'autres personnes, selon les saisons, certains fermiers deviennent manœuvre journalier dans les villes plutôt que de cultiver la terre en région rurale. Le jour, certains travailleurs d'industrie deviennent des travailleurs sexuels en soirée. Alors, comment peut-on vraiment cerner ce mouvement, calculer ce mouvement de continent à continent. Par exemple, ceux qui voyagent par les voies maritimes, selon l'Organisation maritime internationale, le plus grand nombre de matelots ou d'usagers des océans enregistrés mais ce ne sont que ceux qui sont enregistrés avec une certaine certification au niveau international. Ça ne compte pas les marins domestiques et encore moins les pêcheurs. Ces gens-là ont-ils accès à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien? Voyons voir. Certains exemples, les minorités. Je demeure sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, au Canada. Plusieurs autochtones sont attirés par les lumières de la ville et ils sont venus vivre dans la ville de Vancouver. Plusieurs d'entre elles, en fait, ce sont des femmes et qui ont disparu. Personne ne sait où sont passées ces femmes-là. Et il y a aussi la population rurale avec laquelle je travaille dans les Balkans occidentaux. Il y a aussi d'autres facteurs, parce que plusieurs d'entre eux quittent le pays pour le travail, et lorsqu'ils reviennent à leur foyer, les pratiques culturelles qui les ont rendus vulnérables ne sont même pas considérées. Par exemple, dans une famille romaine, c'est coutume de vendre sa fille pour le mariage. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant de l'esclavage ou des mariages véritables? Et aussi les vulnérabilités au VIH qui en découlent. Aussi, il y a des constructions post-conflit dans les régions des Balkans. Par exemple, le gouvernement croatien a signé un protocole d'entente avec la Russie et ils fournissent la main-d'œuvre pour la construction à la Russie. La Russie n'a pas une incidence aussi élevée de VIH que la Russie. Et ces gens-là retournent chez eux durant les fêtes et les congés. Bon, il y a aussi les gens qui font l'objet du trafic de gens. En Chine, il y a des gens qui paient un coyote, comme on appelle communément, pour les permettre de sortir du pays. En 2003, des résultats, en fait, on a découvert des centaines de Chinois morts suffoqués dans un camion. Bon, il y a aussi des travailleurs sexuels, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, des camionneurs qui se déplacent beaucoup. Et dans les Balkans, par exemple, à Kosovo, il n'y a pas vraiment de gouvernement au pouvoir. Et les Nations Unies, en fait, on ne peut pas imposer des lois à la population. Il s'agit d'une administration des Nations Unies. Donc, les frontières sont poreuses et les Moldoviens et les Hongariens vont faire le travail sexuel et ressortent par la suite. Il ne faut pas oublier que non seulement ces réfugiés inclus dans les populations déplacées au niveau international, telles que définies, mais il y en a aussi qui sont déplacés à cause des désastres nationaux. Des désastres naturels, pardon. Les tsunamis en Indonésie, le tsunami de 2004. Plusieurs d'entre eux sont toujours déplacés. Un bon nombre d'entre eux n'ont pas de foyer encore à ce jour. Moins d'un tiers d'entre eux ont vu leur maison reconstruite. Alors, comment mesurer? Nous devons mesurer en prenant en compte la dynamique de la vulnérabilité au VIH, SIDA, au sein même du système de mobilité, ce qui signifie que si nous ne faisons que caractériser, nous augmentons la discrimination et nous n'offrons qu'un portrait partiel. Alors, pour ce qui est de l'accès universel au traitement de prévention, nous devons favoriser l'inclusion plutôt que l'exclusion, parce que nous sommes tous vulnérables si nous ne tenons pas compte de ceux qui sont mobiles. L'approche systémique au mouvement de population nous permet de prendre en compte les communautés sources, de transition et autres, dans l'interaction entre ceux qui se déplacent et les autres qui ne se déplacent pas. Donc, nous avons besoin d'un partenariat pour atteindre l'accès universel. On a parlé du domaine agriculturel, la région agriculture. Plusieurs d'entre eux sont des jeunes. Donc, nous devons calculer le secteur de jeunesse. Mais aussi, on ne doit pas oublier le secteur des transports, l'industrie maritime, l'immigration des travailleurs et des autres, lorsqu'il s'agit de planifier et de préparer les budgets. On doit construire des partenariats avec tous ces autres secteurs. Néanmoins, avons-nous inclus tous ces secteurs dans toutes les consultations nationales et sous-régionales sur le plan pour ce qui est de favoriser l'accès universel jusqu'à maintenant? Et ce sont des efforts complémentaires aux efforts existants. Donc, nous devons nous assurer que leur contribution soit bien des contributions additionnelles et non pas une substitution. Donc, où nous devons avoir des réponses en temps opportun, le seul système de réaction que nous avons créé grâce au partenariat avec l'ASEAN et le Timor occidental, les autres, ont interprété les implications en traitant les causes profondes et les précurseurs au comportement à risque et être aussi proactif plutôt que réactif. Donc, les signaux d'avertissement échappent au secteur de santé. Donc, un partenariat, donc, à ce niveau est essentiel si on veut vraiment s'engager envers l'accès universel. Alors, il faut faire de la crise aujourd'hui en Asie, en Amérique et un peu partout au monde et en faire une occasion. Ce qui nous exigerait d'examiner la politique et il faut favoriser la contribution des immigrants et des migrants plutôt à la prospérité économique. Et on doit cesser d'exclure ces gens-là pour les inclure dorénavant. Nous avons besoin d'une coordination stratégique pour s'assurer que les multiples secteurs seront inclus dans la planification et dans les plans d'action et dans l'allocation de ressources, ce qui exige la participation communautaire qui inclut les communautés de départ, de transition et de hôte aussi. Peut-on se permettre de nier ces défis, l'existence de ces défis? Je suis un membre du jury technique d'examen du Fonds mondial. J'ai cherché pendant des années à voir s'il y avait des propositions qui répondraient aux besoins de ces populations mobiles, qui sont définies comme des populations à risque. Et les propositions au Fonds mondial les excluent. Et j'ai demandé au gouvernement pourquoi. Eh bien, ils ont dit parce qu'ils ne savent pas comment vraiment servir ou traiter de ces populations-là. Donc, c'est plus facile de les exclure.
Donc, passons aux actes et passons de la théorie à la pratique et transformons les crises en opportunités. Nous aurons donc besoin en tant que gouvernance correcte, c'est la façon pour nous de développer un capital social et d'obtenir un accès universel. Une bonne gouvernance peut générer cette réaction avec des partenariats variés qui réagiront, parce que nous sommes ici pour sauver des vies. Avec une bonne gouvernance, nous pouvons construire une résistance communautaire pour la sécurité humaine. Merci beaucoup. Parfait. Il nous reste donc deux secondes sur son chronomètre. Nous allons changer l'ordre des choses parce que nous avons besoin de... Certes, Paul Farmer a besoin de partir plus tôt. C'est un anthropologiste et également un médecin. Donc, il a un regard très spécial sur ce qu'il fait. Et je pense que pas mal de personnes sont conscientes de ce fait. Il fait partie de Harvard et est très connu parmi vous pour en matière de 3 projets en Haïti, au Rwanda. Donc, Paul. Merci beaucoup. Après cette admission de Laurie de ne pas donner trop d'anecdotes, c'est la raison pour laquelle elle a écrit un livre de 900 pages rempli de notes de référence. Étant donné qu'il nous reste 12 minutes, je vais souligner 2 points et les clarifier. Donc, le premier point a déjà été souligné par les premiers conférenciers. Ce n'est pas si facile de définir le concept de réfugié et de déplacement. Et la notion de mobilité et de vulnérabilité sont difficiles à souligner de façon correcte. Le deuxième point est... Et ici, c'est l'anthropologue qui va s'exprimer. Il s'agit de fournir des soins dans des contextes de violence. Je veux commencer par parler du Pérou et j'ai des collègues péruviens ici. Quand nous avons commencé à travailler là-bas, nous ne savions pas exactement de quel type de population nous avions affaire. Donc il s'agissait de savoir si c'était des réfugiés déplacés par la guerre ou à cause de notions économiques. Donc on a également cet exemple, et j'en parlerai plus tard. Donc j'aimerais vous faire montrer cette image afin de me rappeler, en tant qu'anthropologue, que notre compréhension de déplacement doit être plus étendue et bien sûr au niveau historique plus profond. La population dont nous nous sommes occupés ici était des personnes qui vivaient sous état d'invasion. Aucune de ces personnes n'était née là-bas. Et c'est également le cas dans d'autres villes d'Afrique également. Encore, j'ai promis de ne pas raconter trop de choses. Donc j'ai vu cet enfant jeudi dernier au Rwanda. Et ce n'est pas pour parler du génocide, mais... Cet enfant n'est pas séropositif, mais toutefois, il a sauté sur une mine le 22 mars et il ne fait pas partie des cas d'urgence de 94 parce qu'on parle d'une situation qui s'est passée il y a 11 ans. Mais la plupart des mais 60% des personnes au Rwanda sont des personnes qui retournent, sont des anciens réfugiés, et pour retourner, il faut des programmes, des financements, et cela va requérir une analyse minutieuse de la conséquence de la guerre, des conflits et des génocides. Et c'est des choses que l'on peut constater bien après la fin des hostilités, en particulier au Rwanda. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire pour contribuer à aider. Donc, le plus important, il y a des personnes qui n'habitent pas dans ces régions depuis très très longtemps. D'autre part, je suis content que Paul ait parlé de la controverse en matière de l'impact de la violence sur la transmission du VIH. C'est une documentation très variée, et nous l'avons vu sur la carte de Paul. Cette région, le Rwanda, il y a parmi 1000 femmes qui ont été violées pendant le génocide, 66% sont séropositives, et ce vient de chiffres de 2003. Donc elles ont pu ressentir la violence dans sa complémentarité. Donc ces femmes n'ont pas accès aux soins en matière de VIH, et il serait bon que le Rwanda progresse à ce niveau. Il y a énormément qui se passe. Ces conflits ne s'en vont pas par miracle. J'aimerais concentrer mes commentaires sur Haïti. Et certains parmi vous ont vu cette image auparavant, et je m'en excuse. En fait, on se moque de moi puisque je la répète assez souvent. Je la montre assez souvent. Quand j'ai vu cette lieu en Haïti, les personnes qui y vivent se décrivent en tant que réfugiés de l'eau. C'est pour moi un terme tout à fait nouveau, et je ne l'ai pas encore vu à l'écrit. Les personnes dont nous nous occupons ont également été déplacées pas forcément à cause de la violence, bien qu'ils ont une opinion différente là-dessus, mais à cause de développement, à cause de projets de développement. Donc il y a une population importante, mais quand même de moins en moins maintenant. Donc c'est le terme qu'ils ont utilisé, les réfugiés de l'eau. Et pour moi, selon la signification du terme, il va falloir que j'y repense à nouveau. Donc non seulement ils se voient comme des réfugiés, mais également comme des victimes de la violence. Et les Haïtiens ont un vocabulaire beaucoup plus riche que moi pour décrire ce type de violence. Ce n'est pas une réunion d'anthropologues, et je ne vais pas vous ennuyer avec les termes que nous avons choisis pour décrire ce type de violence qui a été vécue par les Haïtiens. Encore, ils vont dire, pas tous bien sûr, mais ceux avec lesquels j'ai travaillé, que je travaille depuis 20 ans, est-ce que le racisme est une forme de violence? Le genre est-il une forme de violence? Et la définition que nous utilisons dans notre domaine, nous ne voyons pas ces concepts comme étant des concepts de violence, mais plutôt comme une façon de diminuer nos capacités à fournir des plans stratégiques au Rwanda, que je commence à connaître, au Pérou. Et bien sûr, au Pérou, le concept de violence est similaire. Le concept est plus large, mais le fait de perdre sa propriété pour un barrage électrique constitue une forme de violence. Donc tous ces débats théoriques sont très intéressants, en particulier pour moi. Et le cas d'Haïti, comme certains parmi vous, c'est en fait... Donc, comme vous pouvez voir sur cette bande dessinée, notre groupe a essayé de définir ce concept de violence avant d'aller au Pérou, au Guatemala, où la violence était un problème majeur. Nous devions savoir comment répartir la logistique en matière de problèmes reliés avec la violence. Et maintenant, en 2004, alors ceci provient d'un rapport du PAO, et le niveau d'impact de la violence sur les services de santé. Donc ils travaillent sur une zone différente. Donc ce coup a commencé en Haïti, dans le centre de l'Haïti, où il y avait des plans de contingence au cas où le personnel médical était kidnappé, l'équipement volé, tout ce qui s'est d'ailleurs produit. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez lire le rapport. Donc il est très difficile de fournir des services sanitaires dans un contexte de violence. Toutefois, et je ne dis pas donner des traitements aux personnes blessées dans les hôpitaux, hein. Ça c'est déjà suffisamment difficile à effectuer, mais de livrer des services en matière de VIH, tuberculose, diabète, ou des thérapies, ce qui représente un défi important. Donc, j'ai promis, quand j'ai décidé de venir ici, de me concentrer sur chaque session afin de prendre, et bien sûr de me concentrer sur le point de l'alimentation et le point de sécurité alimentaire, parce que beaucoup de ces personnes déplacées le sont de leur moyen d'alimentation. L'autre point, c'est que quand les ambulances sont arrêtées par les rebelles, et mes collègues d'Haïti ici, ou quand les personnels médicaux sont kidnappés, que les routes sont bloquées, les ponts détruits, tout ce que nous avons pu voir, la seule façon de fournir des soins, c'est de nous assurer que la présence de la communauté est très forte, ce qui peut être difficile et qui relève d'un défi. Mais nous ne sommes pas dans ces communautés aujourd'hui, et certains parmi nous peuvent se déplacer plus facilement. Donc ma dernière image, c'est l'importance de former les travailleurs afin qu'ils soient là quand la violence a lieu. Merci beaucoup. Très bien, il va finalement rester parmi nous. Notre prochain conférencier, le docteur David Masco, qui est l'organisateur international sur la migration. C'est un urgentiste qui est à Nairobi. Merci. Nous avons une tâche difficile ici. J'ai une tâche difficile ici après la conférence, après la discussion qui vient de me précéder. Donc, laissez-moi commencer avec une citation de Kofi Annan. Aujourd'hui, les frontières ne sont pas entre les nations, mais entre les puissants et les pauvres, les libres et les humiliés. Aujourd'hui, aucun mur ne peut séparer l'aide, les droits humanitaires. Ces phrases vont souligner le déplacement et le contexte difficile dans un monde qui est connecté, interconnecté et interrelié, où il existe des différences, où il existe de la mobilité, où quand on aborde le problème de population mobile, on parle de plans volontaires et involontaires, on parle de mouvements volontaires et involontaires, et la question c'est que la réalité est très fluide. Parfois une personne commence son voyage en tant que travailleur et il est donc motivé par un salaire, et à cause de certains facteurs qui peuvent se produire durant ce voyage, donc tel que l'esclavage, où il peut devenir, donc ce n'est pas très fréquent pour les personnes de laisser un pays pour la même raison et ensuite de devenir un réfugié sous un certain niveau de protection et avoir accès à certains services. Il peut devenir un migrant irrégulier où il peut fuir les persécutions policières et se retrouver dans un conflit qui serait donc un facteur de risque pour la santé. En réalité, les choses sont beaucoup plus fluides, et ce qui est important, c'est le contexte dans lequel les personnes peuvent se retrouver. Parfois, nous oublions qu'il y a des personnes qui restent dans le pays et les partenaires sexuels sont donc laissés dans la communauté, et il y a donc une transition à opérer.
Comme Lina a mentionné, les gens invisibles, c'est ceux qui nous préoccupent particulièrement. Les gens qui ne sont pas considérés, qui sont laissés pour compte et qui sont oubliés par les politiques sociales, ceux qu'on considère des irréguliers, et certaines personnes disent même illégales. Mais en fait, les gens qui sont trafiqués, il y a aussi les enfants en migration, les enfants de soldats et bien d'autres. Et bien sûr, tous les autres qui sont laissés derrière par ceux qui migrent. Le dénominateur commun ou la tribu commune pour ces gens-là, c'est le manque de sensibilisation des fournisseurs de services et des décideurs politiques. Ils sont délaissés par les donateurs et la communauté internationale. Et il y a aussi un manque de données pour savoir ce dont ils ont besoin. Et ils sont particulièrement difficiles à rejoindre. Alors, quelle est l'ampleur globale de la mobilité? On estime que 3% de la population mondiale est en migration. Donc, une personne sur 35. Et il y a aussi une féminisation croissante de ce phénomène de mobilité. 50% et plus. Et ceci croîtra tant et aussi longtemps que les conflits existent et les inégalités économiques. Et aussi souvent que les économies en croissance dépendront de la contribution économique des migrants irréguliers. Les schémas de mobilité sont assez divers et complexes, mais certainement, ils sont toujours motivés par une tentative d'améliorer la sécurité humaine et le bien-être humain. À mon avis, on doit considérer la mobilité des populations d'une perspective de sécurité humaine et de développement, où la santé est un des principaux facteurs. On estime, la Banque mondiale, qu'en 2005, les envois d'argent des migrants représentent le double de l'aide accordée au développement et jouent un rôle essentiel dans ces pays en voie de développement. Ça n'a un impact au niveau du ménage des communautés. L'urgence d'adresser la vulnérabilité spécifique et les besoins des migrants, y compris l'accès aux services de santé et aux traitements antirétroviral, est évident. Lorsqu'on parle aussi de la capitale humaine que représente la mobilité, on a mentionné les travailleurs migrants. Mais qu'en est-il des réfugiés? Du capital humain, le potentiel qui est retiré d'une contribution potentielle de ces gens-là s'ils pouvaient contribuer bel et bien. Aussi, les réfugiés, les ex-réfugiés peuvent contribuer à la cause de la lutte contre le VIH-Sida. Mais la mobilité humaine a lieu dans un contexte de politique restrictive en matière d'immigration et aussi d'homophobie, d'hostilité. Et ce qui nuit beaucoup à l'intégration sociale et l'accès aux services. Et qui pousse, favorise des comportements malsains et qui contribue à un cycle vicieux d'exclusion et de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les populations vulnérables soient vulnérables? Un cadre qui essaie de décrire le phénomène complexe. Les populations mobiles, volontairement mobiles, et celles qui sont mobiles à cause des conflits, eh bien, il y a une série de facteurs structurels à chaque étape du processus. Et parfois, ça pourrait être plus élevé dans la phase pré-départ où une personne pourrait décider de migrer sans avoir des documents et peut-être s'en remettre à un coyote, si vous voulez. Et puisqu'il se retrouve dans une situation d'esclavage, de violence ou toute autre forme de but, y compris être forcé de faire du travail sexuel. Et dans la transition, surtout pour ce qui est des femmes, ils doivent se vendre sexuellement en contrepartie d'un voyage qui leur permettrait de migrer. Ou aussi les travailleurs informels dans les fermes et qui sont privés du support social et qui doivent vivre dans des régions éloignées en compagnie d'hommes et qui doivent se livrer sexuellement. Alors, quelles sont les différences et les similitudes entre l'immigration obligée ou forcée et l'immigration volontaire? Il y a plus de similitudes que de différences, à notre avis. La différence, c'est surtout, à notre avis, la modulation de différents facteurs structurels, individuels et environnementaux. Mais les points communs, en fait, c'est être séparé des normes sociétales et culturelles, parfois de partenaires sexuels réguliers, parfois des langues et des cultures. Il y a aussi la marginalisation, la pauvreté, la xénophobie, la stigmatisation, et ils sont difficiles à rejoindre surtout. Et ça, c'est particulièrement personnel pour ce qui est de la continuité des soins. On a mentionné l'importance de trouver une façon de fournir des traitements antirétroviraux et la prévention aux populations mobiles. Et ça représente tout un défi, une préoccupation, puisque nous ne savons pas comment le faire. Nous devons apprendre comment le faire. Nous savons que nous devons commencer ces efforts, mais comment les continuer? Toutes les difficultés sont dues la nature même de la mobilité, le contexte. Il y a aussi les statuts légaux, les différences entre les politiques en matière d'immigration et de santé dans un pays, les niveaux de protection. Et encore une fois, parfois les réfugiés sont peut-être mieux protégés que des personnes déplacées à l'interne ou des migrants illégaux. Il y a aussi la disponibilité des services et la capacité d'accéder à ces services. Peut-être il y a une distinction au niveau. Bien sûr, le profil de santé et la connaissance de l'individu, le sexe et la visibilité et l'attention de la communauté internationale, y compris les donateurs. Alors, quel cadre peut-on utiliser pour une approche? Encore une fois, agir auprès des individus, mais aussi d'adresser les questions concernant les facteurs de mobilité et de vulnérabilité. C'est peut-être ce qui est plus facile parce que changer des comportements est peut-être plus complexe, mais en tout cas, c'est relié à la structure de la mobilité. Bon, il faut changer les politiques, aller d'une approche d'exclusion à une approche d'inclusion, faciliter l'accès des migrants aux soins et au soutien, établir une collaboration multisectorielle qui inclut surtout le secteur privé, par exemple les marchés de travail informel, et finalement, habiliter les migrants et les communautés hautes, pour faire ce travail. L'action devrait inclure aussi la mobilité, donc faire de la mobilité un aspect majeur des programmations en termes de VIH, surmonter les barrières structurelles, en termes de politique et de réglementation, des programmes qui vont réduire la vulnérabilité dans le processus de transition. On a besoin des systèmes de surveillance pour collecter des données, pour ce qui est des invisibles, faciliter la collaboration entre le secteur privé, les forces de la loi et les groupes mobiles, et aussi sensibiliser face aux risques de VIH et des droits des migrants. Et puis, on a besoin finalement d'améliorer l'accès au traitement. Merci. Ah, c'est merveilleux. Tous les conférenciers sont limités au temps alloué, donc il reste suffisamment de temps pour vos questions. Lorsque vous approchez du micro, j'aimerais souligner la prochaine réunion aura lieu à Mexico. Et si je ne me trompe, la plus grande population transfrontalière aujourd'hui, ce sont des Mexicains et des individus de l'Amérique centrale qui vont vers le nord. Je pense qu'on en parlera beaucoup lorsqu'on se rencontrera au Mexique. Alors, c'est le temps pour des questions. Ce n'est pas le temps de faire des discours. Dites qui vous êtes lorsque vous présentez au micro, s'il vous plaît. Je viens de la ville de Mexico et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de travail en mobilité et de VIH dans une des régions au Mexique. C'est le plan stratégique de l'ensemble du pays. Il y a deux projets sous-régionaux qui sont financés par la Banque mondiale et l'autre par le Fonds mondial qui pourraient intéresser certains d'entre vous. Bon, ma question. Bon, l'un ou l'autre des panélistes pourrait-il offrir des exemples spécifiques de donner comment on donne des traitements antirétroviraux à des migrants? Quelqu'un veut-il répondre à cette question? Paul? Merci pour la question. Je parlais surtout des réfugiés, vu mon expérience. Et ça a été assez controversé. Il y a 4 ou 5 années de cela, on pensait qu'un réfugié ne devrait pas avoir accès à l'ARV. Maintenant, c'est le contraire. On pense que les réfugiés devraient bénéficier de ces traitements. Il y a beaucoup d'exemples maintenant. En fait, les réfugiés burundiens récemment, les gens du Burundi qui sont devenus réfugiés en Tanzanie, qui recevaient de la thérapie antirétrovirale, et on a pu leur donner la thérapie antirétrovirale sur une base continue pour leur permettre de poursuivre le traitement. Mon exemple préféré, il y en a des centaines, ne sont pas des exemples systémiques. Des réfugiés soudanais qui traversent la frontière pour aller au Congo République du Congo qui vit dans un endroit qui s'appelle Aro et qui traverse la frontière ougandaise à Rouen, où les médecins sans frontières offrent des thérapies antirétrovirales. Ils peuvent accéder à ce traitement de cette façon. Donc, il y a plusieurs exemples, et je dirais aussi dans le sud du Soudan, il y a beaucoup de réfugiés au Kenya et certains en Ouganda. Nous sommes des réfugiés soudanais et nous travaillons de façon transfrontalière avec les ONG et le gouvernement pour nous assurer qu'ils vont obtenir continuellement leur traitement antirétroviral lorsqu'ils retourneront. Comment peut-on assurer le suivi des populations de réfugiés pour s'assurer, bon, pour que quelqu'un, par exemple, a traversé trois frontières pour arriver à la clinique des médecins sans frontières. Il cherche un endroit pour vivre. Comment peut-il assurer la continuité avec le même traitement thérapeutique? Qui fait un suivi de ça? Bien, la personne en question ne reçoit pas le même traitement dans les trois endroits, malheureusement. Il y a des questions de confidentialité, bien sûr, et parfois des réfugiés ont été retournés dans un convoi, on a leur nom et leur statut séropositif. Mais ils doivent avoir une façon d'assurer la confidentialité. Lorsque les réfugiés retournent, et d'autres qui traversent la frontière, les camionneurs par exemple, lorsqu'ils retournent, on devrait analyser le personnel médical pour s'assurer du contenu de leur traitement. Il y a plusieurs façons pour le faire. Mais la plupart des réfugiés n'attendent pas un rapatriement volontaire et structuré du Haut Commissariat. Ils procèdent par eux-mêmes et c'est leur droit de le faire. Ils savent quand c'est sécuritaire ou non. Mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils doivent trouver les soins de santé lorsqu'ils sont de l'autre côté de la frontière. Je suis Mike Callahan. J'étudie l'anthropologie au Canada. Ma question s'adresse à tous les panélistes. Je suis content que vous avez passé autant de temps à discuter sur la définition d'une personne déplacée ou d'immigrant. Mais un groupe qu'on n'a pas discuté, c'est les populations nomades ou semi-nomades. Je sais que dans bien des cas, à travers le monde, les nomades sont traités comme étant des citoyens de seconde classe. Alors, à votre avis, où cadrent les populations nomades dans le cadre, en fait, de nos discussions sur les populations migrantes ou déplacées? David? Oui, en fait, les populations nomades sont considérées comme étant un des groupes les plus difficiles à rejoindre. Et il y a beaucoup d'expériences de traitement anti-tuberculose, mais il y a très peu de données sur la prévention et les soins pour ce qui est du VIH et SIDA. Mais vous avez raison, c'est une population souvent oubliée, négligée, mais on devrait essayer de mieux les cerner. J'aimerais seulement ajouter pour ce qui est de l'aspect pragmatique. Comme David a dit, pour la tuberculose, c'est mieux étudié, il y a des cartes que les gens ont pour traverser les frontières, etc. Mais on a besoin d'organisations comme GLI en anglais et les ressources nécessaires pour que ça fonctionne en Afrique, mais ce serait possible à mon avis. Un simple commentaire pour ce qui est des populations nomades. Nous offrons des conseils aux Maasai, au Kenya. Et bien sûr, les distances couvertes ne sont pas comme les étaient jadis, mais former les travailleurs de santé communautaire qui voyagent avec leurs frères et leurs sœurs et planifier des réserves de bois de sorte que, en sachant lorsqu'on sait où rejoindre, quand rejoindre ces populations. Par exemple, dans ce cas ici, dans la région des montagnes Julu, on avait des gens là pour les assister. Bon, on parle d'environ 20 000 personnes au total dans cette région-là, mais des gens vont essayer de régler les problèmes pragmatiques et avec l'aide des organisations internationales et des bailleurs de fonds, on l'espère. Chris Lamont, Université de Melbourne, en Australie. Ma question, mais avant un point de précision. La politique n'est pas d'exclure des gens qui sont séropositifs, mais c'est ce qui arrive pratiquement parlant dans bien des cas, la plupart des cas peut-être. Alors, quelles sont les difficultés propres aux populations mobiles en termes d'équité au niveau de l'accès? pour ce qui est des lacunes dans les services de soins de santé des pays hôtes. Léla, je vous refais la question. Merci pour cette excellente question. Je pense que cette situation reflète le fait qu'on ne peut pas considérer seulement le secteur de santé comme étant responsable dans cette question. C'est pour ça qu'on a besoin que les autres secteurs, y compris l'immigration, travaillent ensemble. En renforçant seulement le système de santé, on ne peut pas accomplir le travail. Micro numéro 1. Une question afférente. Je suis de l'Angleterre. En l'absence d'un accès universel de traitement pour tous, et pendant que le Royaume-Uni demande l'accès universel depuis 2010, comment puis-je faire en sorte que mon gouvernement réalise que c'est moralement erroné en termes de santé de renvoyer des migrants séropositifs dans leur pays où les traitements ne sont pas disponibles? Et quelle influence pourraient jouer les Nations unies auprès des nations hôtes pour arrêter la déportation de personnes séropositives, du moins jusqu'au 1er janvier 2010? Paul Farmer, j'aimerais simplement ajouter que, pour ceux d'entre nous qui sont contre le mouvement involontaire de toutes sortes, je pense qu'il y a toutes sortes d'activités possibles en termes d'activisme. Par exemple, chez nous, ce que nous faisons, c'est que nous fonctionnons en tant qu'experts témoins dans des audiences en matière de déportation. Ce que je veux dire,
laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'hostilité entre les migrants dans mon pays, mais nous n'avons jamais encore perdu un cas. Nous avons eu beaucoup de compétences et d'expériences venant de la part des volontaires. J'ai eu une discussion avec quelqu'un à ce sujet aujourd'hui en Angleterre et je pense que, comme Paul l'a dit, la plaidoirie et l'expertise, nous avons également essayé en matière de recontextualisation dans le VIH. Et ce que je peux comprendre, c'est que l'Australie a un nombre en matière de coûts et que s'il dépasse ce coût, il n'accepte pas effectivement les réfugiés. Donc, est-ce que je peux vous poser cette question? Donc, un des phénomènes dont Paul doit être très habitué, c'est que beaucoup de personnes, en particulier d'Amérique centrale, Mexico, si leur enfant est né aux États-Unis, il aura une nationalité une double nationalité. Donc on voit que beaucoup de femmes haïtiennes, si elles sont prégnantes, enceintes, elles veulent donc venir aux États-Unis. Donc dans d'autres parties du monde où il y a à peu près les mêmes questions, si vous essayez de faire votre enfant naître dans ces pays où le système de santé est supérieur, que se passe-t-il? Je pense que la situation des États-Unis est unique. Nous avons la situation opposée. Nous avons des parents dans le pays qui sont dans le pays en tant que résidents et ils viennent bien sûr de groupes minoritaires, et les enfants n'auront pas cette nationalité et sont exclus. Ils n'ont aucun accès à l'éducation ou aux soins de santé. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro? Ma question est la suivante. Puisque nous sommes conscients, je ne sais pas comment vous l'appelez, génocide, guerre civile, La plupart des réfugiés, personnes déplacées dans ces régions, donc les personnes qui sont déplacées, et la plupart des agences en matière de sida, étant donné qu'il n'y a aucune paix qui semble être obtenue, nous sommes également conscients de l'infection VIH, qu'il n'y a aucune mesure qui ont été prises dans ces régions. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation et la façon dont il va falloir s'occuper de ces questions. Donc, est-ce que si nous allons voir des personnes qui décéderont de l'infection du VIH avant que la paix ne soit obtenue? Donc, Paul, c'est une question très bonne, mais très difficile à répondre. Apparemment, la communauté internationale n'a pas réussi à échouer à répondre, à résoudre ces problèmes. Comme le Liban et les autres tragédies qui existent, et bien sûr qui semblent empirer, je peux dire que c'est très compliqué parce que il y a les réfugiés, les personnes déplacées. Il n'y a pas une seule agence de l'ONU qui s'occupe de ces personnes. Il faudrait une réforme humanitaire. Certaines agences s'occupent de certains points. Par exemple, l'OMS s'occupe de la santé. ONU SIDA, le HCR a travaillé au Darfour et n'a pas pu fournir des soins adéquats, même en matière de sida, la post-éposition, le préservatif. Nous n'avons pas pu, parce que c'est très très difficile en matière de logistique, et en plus, il y a eu depuis 6 mois le décès de travailleurs humanitaires tués. Donc si la communauté internationale n'essaie pas de rentrer en jeu, je ne sais pas quoi vous répondre. Je n'ai vraiment pas de réponse appropriée. Donc je vois que Paul Farmer est parti. Donc il parlait des difficultés de fournir des soins et des traitements dans les situations de conflit. Donc je me demande si nous devrions pas analyser les opportunités qui existent en matière de, afin de fournir des services aux réfugiés et de créer un dialogue afin de voir si c'est une situation positive quand il s'agit d'aborder les conflits. Donc pour le groupe de travail, qu'est-ce qui peut être fait? Quoi de plus peut-on faire? Donc, quand il s'agit d'utiliser la bonne nature du public, donc j'aimerais aborder le problème structurel. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que nous pourrions faire? Donc, je pense que vous avez parlé de ces questions auparavant, Lina. Donc, effectivement, c'est un défi très pertinent, et bien sûr, nous essayons toujours de créer de trouver des opportunités, et c'est ainsi que nous avons essayé de traiter le problème dans l'Asie du Sud-Est. Donc l'exclusion, la discrimination, et nous essayons de créer des partenariats, et nous utilisons les migrants, les personnes déplacées, ils forment leurs propres organisations, et nous les facilitons, et avec le système des Nations Unies, nous Nous avons créé un groupe de travail sur la mobilité et la réduction de la vulnérabilité. Nous avons pu, grâce à la position des Nations Unies, de ramener le gouvernement et de le faire s'asseoir et de partager des discussions avec ces groupes de travail. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, nous avons pu formuler des stratégies régionales et nous avons pu les mettre en action. Donc, nous allons parler du rôle des Nations Unies et donc nous voyons que ce qu'ils font, c'est de contrôler les activités coercives et sexuelles. Donc, voici un exemple pour les réfugiés, de la mobilité des réfugiés. Nous avons un programme intéressant avec les Angolais dans un camp en Zambie parce qu'ils sont là depuis longtemps et exposés à toutes sortes de situations. Et nous avons assisté à leur retour au niveau communautaire, qu'ils étaient devenus des activistes au niveau de la communautaire. En fait, comme je l'ai dit auparavant, il est important de capitaliser, de changer les conditions de crise et les opportunités. Et donc, c'est encore un exemple. Je m'appelle David, je travaille pour Médecins sans frontières. Je travaille donc pour Médecins sans frontières et je m'adresse à Dr Mouska. Merci pour votre communication au sujet de la mobilité des gens en période de conflit. Est-ce que les conflits sont un facteur très important? Quels sont les arguments contre? Donc la mobilité serait un facteur qui justifierait le fait qu'on ne fournirait pas de soins à ces personnes. Est-ce que le fait de vivre dans un pays affecterait cette situation? Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question, mais si c'est donc comment fournir des traitements dans un contexte de mobilité? Non, dans une zone de conflit quand la population bouge sans arrêt, par exemple le Congo. Donc vraiment comment quantifier, est-ce que le fait d'être déplacé est-il un argument dans l'approvisionnement de soins? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Donc, je crois que cette question ne peut pas être répondue, mais elle doit être spécifique à la géographie, au contexte. Mais une chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que dans la plupart des situations de conflit, le taux de VIH n'augmente pas, mais au contraire baisse, parce que les gens bougent. Ce que nous avons trouvé d'intéressant, c'est que notre rapport de sécurité nous a montré une augmentation dans la diversité de la puissance du VIH. On a plus, et ceci est certainement dû aux soldats. Aux maisons closes, et c'est ce que nous avons pu constater au Congo. Mais si quelqu'un veut aborder ce sujet, je pense qu'il est difficile de répondre à cette question. Je m'appelle René Bamba, je suis un ancien réfugié, je l'ai été pendant 14 ans et je suis arrivé ici il y a 2 ans. Ma première question s'adresse à Dr Paul. J'aimerais savoir dans quelle mesure Dans quelle mesure peut-on obtenir des informations en matière de VIH sur les camps ou dans les camps? Dans quelle mesure votre programme peut-il nous informer sur le VIH, le SIDA? Et selon moi, après les recherches que j'ai effectuées, il me semble que certains réfugiés ne savent absolument rien sur le VIH, le SIDA. Et mon deuxième point, qui est le suivant, quel serait votre conseil? Quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui serait prêt à aider à fournir des informations et qui serait relié bien sûr à l'épidémie VIH? Parce que dans mon cas, je suis prêt à débuter un projet dans ma communauté à Winnipeg où nous pourrions aider les réfugiés qui ont besoin de plus d'informations au sujet de la maladie. Donc, quelle serait votre réponse? Merci pour cette question. Vous pouvez aller sur le site internet qui vous donne une liste des camps de réfugiés et les précautions universelles qui peuvent être fournies et les antirétroviraux qui sont fournis. Le HCR n'est pas effectivement le comité qui donne ces services. Ce que nous avons trouvé dans nos études, c'est que les études de surveillance sur les réfugiés et les communautés, en particulier au Soudan, où nous retournerons, nous avons trouvé de façon consistante que les réfugiés, en particulier les réfugiés qui sont là depuis longtemps, ont tiré bénéfice des ONG, mais en général, tout ceci est contextuel. Ils ont tout de même de meilleures pratiques que les communautés environnantes par rapport à la situation de retour. Donc HCR a commencé à s'occuper du VIH dans les 4 dernières années. La meilleure façon, bien sûr, de développer l'information et de la disséminer, c'est de la faire par les ONG, en particulier en matière de réfugiés. Je viens d'Afrique du Sud et je travaille sur la frontière avec les groupes mobiles. Donc ce sont quand même des groupes invisibles. Quand on essaie d'obtenir des preuves, on se rend compte. Donc ils sont généralement adressés à la clinique. Il y a des problèmes de xénophobie. Comment améliorer la façon dont nous obtenons des preuves? Puisque ce sont des personnes qui bougent énormément, donc comment s'occuper de ce problème? Comment résoudre ce problème? Donc, sur un point de vue épidémiologique, il y a des techniques qui sont particulières et ce, quelle que soit la population. Donc, il y a des choses que nous essayons de trouver. Où sont ces groupes? Et bien sûr, quand on les a trouvés, trouver d'autres groupes. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est une façon de le faire. Et nous savons nous savons comment ils travaillent, dans quelle partie on peut les retrouver. Et il s'agit de développer des échantillonnages. Ça peut être fait, mais ce n'est pas facile. La dernière question. Donc, Linasu, votre présentation s'est concentrée sur l'Asie, la Chine et les régions environnantes et la mobilité qu'il y a dans les régions environnantes. Ce qui est de spécial dans ces régions, c'est que c'est causé par des opportunités économiques et ces personnes sont très très mobiles, mais peut-être qu'elles ne font pas partie des populations, des groupes vulnérables, mais elles ont peut-être plus le besoin de bouger et donc de ne pas recevoir l'information disponible. Mais toutefois, ce sont des personnes qui créent la vulnérabilité et la vulnérabilité structurelle et pour d'autres personnes. Donc j'aimerais savoir s'il y a un désir de cibler ces personnes et B, qu'est-ce qui peut être fait pour les cibler. Donc si je comprends votre question, il y a une population mobile et d'autres qui ne le sont pas et des personnes qui ne se considèrent pas comme étant vulnérables. Donc comment les impliquer afin de pouvoir travailler avec ces personnes? C'est également une excellente question et c'est pourquoi j'ai dit que nous avons besoin de nous occuper des politiques et de la communauté ensemble. Donc si on s'occupe d'un seul facteur, cela ne va pas fonctionner. Nous avons eu un gouvernement qui nous a dit que il y a beaucoup de personnes présentes, mais dans ce système, nous pouvons convertir ces personnes afin qu'ils défendent les droits humains. Donc, c'est quelque chose de possible et je crois vraiment en l'humanité. Et si nous continuons à avoir de la foi, si nous continuons à avoir foi et à travailler, nous aurons une solution à nos problèmes. Donc, j'ai ici une requête à faire. Donc, les volontaires ici sont les personnes ici en bleu sont des volontaires. Donc si vous pouviez ramasser vos ordures afin de faciliter leur travail, je vous en serais très reconnaissante. Merci beaucoup. Yes.